Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue dans Radio Foot International en cet après-midi du jeudi 7 décembre. Un jour où il y a peut-être du suspense, peut-être pas d'ailleurs, pour le Ballon d'Or dont le trophée qui brille de mille feux sera remis ce soir à Paris. Évidemment, il y a un favori pour cette 62e récompense du magazine France Football. Mais le jury des 176 journalistes spécialistes peut-il se défaire de cette alternance qui dure depuis 2008, imposée par les deux meilleurs joueurs du moment et qui semble même se bonifier au fil des saisons? Eh bien, nous essaierons de répondre à ces questions. Il y a du suspense pour vous, Habib?
Oh là là.
Non, il n'y en a pas.
Bruno voilà, Salomon.
Merci, mais on va y aller. En fait, c'est terminé. L'émission est terminée.
Non, mais c'est une deuxième partie dans l'émission.
Il n'y en a pas. Il est monté dans l'avion. Il nous a mis une belle photo sur Instagram.
Le gagnant est déjà. Il est déjà en route.
Le vainqueur sera Cristiano et le deuxième sera Ronaldo. Donc.
Oh là là.
Oui. Le troisième, je ne sais pas.
Bon, alors, on continuera à en parler dans cette émission de toute façon. Et puis, nous parlerons aussi de la très belle soirée des buteurs africains en Ligue des Champions. 9 buts des pieds de 6 internationaux, dont le Camerounais du FC Porto, Vincent Aboubakar, qui a mis un doublé. Mais il y en a d'autres aussi qui ont marqué, on en parlera. En tout cas, les 16 qualifiés sont connus. La déception certainement est grande du côté de certains éliminés, comme Naples, Dortmund aussi et Leipzig. Et on se livrera un petit jeu des pronostics qui contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale. Avant ce tirage qui aura lieu lundi, vous tremblerez jusqu'à lundi.
Bruno. Bah non, ils vont jouer Chelsea. C'est pareil, il n'y a pas de suspense non
Chelsea
plus.
Chelsea ou le Real.
Vu les probabilités, normalement, c'est Chelsea.
En tout cas, chers amis, vous êtes là. Et Radio Foot, c'est parti.
Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or.
Merci beaucoup.
Le vrai suspense, c'est la musique. Quelle est cette musique, Bruno Salomon?
C'est Les Dents de la Mer.
Exactement. Pour mettre un peu de
c'est
suspense.
C'est quand le requin arrive, etc.
Mais, ouais, là, mais pourquoi
je sais pas.
Suspense,
non, c'est surtout que Ronaldo est revenu comme un requin sur Lionel Messi aussi.
Le grand requin blanc. Le grand blanc. Okay.
En carton pâte, parce qu'à l'époque, on faisait pas de la 3D comme on fait actuellement. En tout cas, vous avez entendu ce qui était le 61e Ballon d'Or, donc celui de 2016, en décembre, lorsque Cristiano Ronaldo avait donc reçu son 4e Ballon d'Or, qui pour lui succédait. Alors vous avez donné déjà votre opinion. Pour vous, il n'y a pas de suspense. En tout cas, cette soirée aura lieu tout à l'heure dans un coin prestigieux de Paris. Et on va savoir tout au long de cette soirée quelle est la liste finalement de tous les joueurs, parce qu'il n'y a pas eu de trio, il n'a rien eu cette année. Les responsables du prix, qui ont repris ce prix depuis l'année dernière, la revue France Football, ont décidé de délivrer tout à l'heure ou au fur et à mesure de la soirée les 30 premiers. En tout cas, la soirée sera retransmise dans 120 pays et elle est présentée par David Ginola, l'ancien footballeur reconverti en présentateur. Habib, vous pouvez encore avoir une autre carrière.
J'ai pas cette ambition.
Dans quelques années, Habib.
Non.
Après avoir été entraîneur et sélectionneur.
Peut-être.
Peut-être. Vous présenterez un jour la soirée du Ballon d'Or.
Mais
sur
dans
la
très longtemps, j'espère.
En tout cas, ce lauréat qui, c'est lauréat, on va dire, ce mano à mano absolument incroyable qu'elle a depuis 2008. Est-ce que c'est peut-être Habib, la dernière année?
Non, je pense pas. Je pense pas, parce que lorsqu'on voit ces joueurs-là, chaque année, depuis maintenant 4-5 ans, on prédit à ces joueurs-là une forme de baisse d'intensité par
ils
rapport
ont tous
à
les deux
des stats
30
qui
et
sont...
32 ans.
Oui, mais par rapport à des stats qui sont exceptionnels, ce sont des joueurs qui se bonifient avec l'âge, comme le bon vin. Et puis c'est surtout des compétiteurs hors pair. Et je crois qu'ils sont hors normes et qu'aujourd'hui ils sont pas dans la même galaxie que les autres. Et lorsqu'on voit Messi, tout le monde disait qu'il était dans une passe difficile. On se rend compte que cette année avec le Barça, il revient à son meilleur niveau, et ce sont des légendes du football qui vont pour moi encore exister pendant 2 ou 3 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner à eux deux les 2-3 prochains Ballons d'Or, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront de toute façon des
au top,
et que pour les battre ou pour leur prendre un Ballon d'Or à ces deux-là, il faudra être très 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 fort.
C'est la question, c'est de se dire qui pour les bousculer. Alors oui, Neymar, mais Neymar qui prend les clés d'une nouvelle équipe qui est pas encore en place. Si Neymar l'année prochaine gagne la Coupe du Monde avec le Brésil et fait une Ligue des Champions, gagne la Ligue des Champions par miracle avec le Paris Saint-Germain, là vous pouvez peut-être vous dire il va se passer quelque chose. Mais sinon, effectivement, pour l'instant, les prétendants sont pas nombreux pour venir les chatouiller, les deux qui sont effectivement sur la planète Mars, tous les deux tranquilles en train de jouer au foot. Et voilà, c'est sur ce Ballon d'Or. Donc
il y a personne qui est proche d'eux en fait.
C'est ça.
Depuis 10 ans, il y a personne qui où on dit éventuellement s'ils avaient gagné un truc en plus, on a eu quoi? Peut-être Ribéry une année.
Ouais.
Et sur le fait qu'il ait gagné tous les titres avec
Snyder
le Bayern
en 2010.
Ouais,
qu'aurait dû l'avoir.
Et sinon,
Ribéry en 2013
très loin encore.
Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que pendant très longtemps, et c'était un bon critère, bon, même s'il n'y a pas que celui-là, c'était leur efficacité, le nombre de buts qu'ils marquent après saison. Mais même quand ils marquent moins, ça reste les meilleurs, je suis désolé. Peut-être que Messi, enfin, on n'est plus dans les totaux qui faisaient 60, 70 ou 80 buts par saison, enfin là j'exagère. Mais ils continuent de marquer déjà, donc ça c'est pour les stats, c'est pour mettre tout le monde d'accord. Et
il marque dans les grands matchs.
Voilà, il marque dans les grands matchs, mais ouais, c'est surtout la position. Par exemple, Messi est en train de se réinventer. Il marque peut-être un peu moins, mais il commence à être un peu plus joueur d'équipe, un peu meneur. On le voit d'ailleurs même avec l'Argentine. C'est moins évident avec l'Argentine, mais ils savent évoluer, ils savent se changer, se métamorphoser,
se régénérer.
Voilà. Et du coup, les autres. Alors même s'ils marquent moins de buts, par exemple la saison prochaine, qui viendra les chatouiller? Il faudra déjà marquer énormément de buts, ça déjà faut le faire, et ensuite après peser sur l'équipe.
On a parlé
de Neymar peut-être.
Par contre, moi j'ai peut-être une idée pour. C'est peut-être pas Neymar en fait qui viendra les chatouiller.
Je pensais à Kane par exemple.
Je pensais à Kylian Mbappé. C'est très jeune, je sais, mais quand tu vois,
ça répond
présent.
Il faut un titre.
Voilà, il faut un titre.
Il faut un titre majeur, parce que les buts ne suffiront pas. Et puis il y a aussi dans le collectif. Moi, je pensais plus à Kane, parce que il parle.
Moi, je pense que Kane est cantonné à jouer à Tottenham ou dans un grand club anglais, mais tu le verras pas du côté du Real. Je crois qu'il est. C'est un attaquant très pur anglais. J'ai discuté d'ailleurs avec Serge Aurier, qui me disait qu'il était incroyable en Angleterre, mais qu'il voyait ses limites.
Ouais.
Pour aller dans des grands clubs comme le Real ou le Bayern ou ailleurs.
Quand je parle de Kane, c'est Tottenham et l'Angleterre, c'est les deux. C'est
parce que t'es obligé de faire le coup.
On attend un exploit de l'Angleterre. À mon avis, ne peut venir que de Kane. Donc s'ils font un exploit, je sais pas, finaliste, et puis après une bonne Ligue des Champions cette année, l'année prochaine, Kane se rapprochera. Mais j'ai dit, se rapprocherait.
Et c'est là effectivement, Bruno. J'imagine que vous y pensez. C'est parce que c'est là que Mbappé pourrait avoir aussi le profil avec une sélection française à la Coupe du Monde
et une
équipe du PSG sans doute peut-être championne de France.
C'est ça, une sélection performante et championne de France, ça va pas servir à grand chose, Annie. Il faut briller,
il faut briller
sur la scène européenne.
Oui.
C'est-à-dire que
Cristiano Ronaldo
l'année dernière se rapproche avec l'Atlético Madrid et dans les 5 de ce Ballon d'Or. Enfin voilà, il est dans le secteur, mais il faut se rapprocher des étoiles. Et les étoiles, Cristiano, il a encore pulvérisé tout le monde parce qu'il s'est encore remporté la Ligue des Champions.
9 buts hein, déjà.
Seul. Ouais. Et là, il est en train de faire la même chose. Donc en fait,
mais Cristiano, il est aussi champion d'Espagne. Et ça aussi, ça, c'est...
Je suis pas sûr que le titre de champion soit
champion de la Liga.
Après, le problème, c'est la reconnaissance que vous avez par rapport à un titre. Je pense que quand vous êtes champion d'Espagne, malgré tout, dans la tête des gens, c'est beaucoup plus, il y a plus de reconnaissance que si vous êtes champion en France, en Ligue 1.
Je crois qu'on a établi
un petit peu le niveau aujourd'hui des championnats et on estime que la Liga est le championnat le plus relevé. Et moi, je reviens sur ce qu'a dit Chérif, c'est lorsqu'on dit que ces joueurs-là se sont réinventés. Il faut pas oublier qu'il y a 6-7 ans, on disait que Ronaldo marquait énormément de buts, mais dans les classicos, parfois, il ne faisait pas la différence. Là, ces dernières années, sur les 5 ou 6 dernières années, il marque dans tous les classicos. Il marque en finale de Ligue des Champions. C'est lui qui est décisif. On a l'impression que c'est toujours lui, tout seul, qui fait gagner le Real, même si c'est pas le cas. Mais regardez la finale de la Ligue des Champions. Il est double buteur, si je me trompe pas.
Mais c'est lui qui emmène le Portugal en 2016.
C'est lui qui porte le Portugal. Et même lorsque le Portugal gagne l'Euro, on retient que lui sur le banc.
Exactement. Sur le bord du terrain, même, avec son genou.
Et Messi qui qualifie tout seul l'Argentine. Voilà, c'est tout. On t'attend, c'est le dernier match. Est-ce que tu seras là ou pas contre l'Équateur? Je suis là, j'en mets 3. Et maintenant, vous dites quoi? Rien.
Exactement. Et d'ailleurs, on parle de Cristiano. Et ben hier soir encore, hein, en Ligue des Champions, il a brillé. Il a marqué un but incroyable et il a battu des records. Une fois encore, il a marqué. Il est le premier joueur à marquer dans les 6 matchs de phase de poule de Ligue des Champions et il a égalé le record de Messi qui était de 60 buts en Ligue des Champions.
Vous avez utilisé les dents de la mer. C'est le grand requin blanc du football. C'est voilà. Il mange au record. Il vit record. Il est dans la performance individuelle et il est habité par remporter des records et laisser une trace indélébile dans l'histoire et allez le chercher maintenant. Là,
et puis il n'y a jamais de doute.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on peut tout dire sur ce genre-là. Depuis quelques semaines, il marque moins. C'est vrai, comme le disait Chérif, mais il n'y a jamais de doute. Ils ne sont jamais habités par le doute. C'est des joueurs qui sont sûrs de ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin avec cette ambition-là. C'est-à-dire que tous les matins, ces mecs-là posent le pied par terre en se disant « Aujourd'hui, je dois être le meilleur dans tout ce que je fais. » Et c'est ce qui fait que ces deux-là sont en haut. Parce que c'est vrai qu'ils sont nés avec un don. Mais le don vous fait pas être ce que vous êtes aujourd'hui pour Cristiano Ronaldo ou pour Messi. C'est du travail. Et là où je rejoins Bruno, c'est que pour Mbappé, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'à 18 ans, dans les grands matchs, on peut dire ce qu'on veut sur ce joueur-là. Il défend pas beaucoup, mais il est décisif. Et il est décisif et il marque des buts. Et lorsqu'on regarde ses stats, il est aujourd'hui dans le top 5 européen en 2017 pour les buts en Ligue des Champions, qui est le niveau le plus relevé. Donc quand vous existez auprès de ces joueurs-là, c'est que vous avez quelque chose et que l'avenir doit vous amener un peu comme Ronaldo.
Vous souvenez Bruno une fois, on en avait parlé dans Radio Foot en se demandant si c'était la vraie star qui avait été recrutée cet été au Paris Saint-Germain. Finalement, c'était peut-être pas plus Mbappé que Neymar parce que l'un fonctionne avec l'autre bien, mais on a l'impression que Mbappé, même sans Neymar, peut peut-être mieux fonctionner.
L'un va se nourrir de l'autre. Oui. C'est Mbappé, c'est ce qu'avait fait Neymar.
Si Neymar le veut bien.
Voilà. Oui, mais alors pour l'instant, il l'a adoubé. Pour l'instant, il l'a adoubé. Effectivement, le jeune prend la lumière. Ouais. Alors que lui est dans une partie sombre avec le Paris Saint-Germain. Mais oui, le Paris Saint-Germain a un futur ballon d'or, a peut-être deux futurs ballons d'or dans son équipe. Mais il y en a un qui doit devenir le patron.
Et il y en a un qui a le temps.
Il a le temps, mais surtout, il a le temps et il a la force de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il peut s'éclater, on lui a pas donné les clés. C'est un peu comme Neymar qui avait Messi au-dessus de lui et il était tranquille, il pouvait grandir, passer les échelons. Par contre, quand on te donne la destinée d'une équipe, je vois pas Neymar décisif face au Bayern mardi soir. Il est dans le noir complet.
Alors qu'on l'avait vu décisif pendant la remontada, c'est ce qu'on avait beaucoup raconté.
Et juste pour terminer, petite anecdote qu'Olivier Pron de RFI a vécu aussi. À la fin de la rencontre, tous les joueurs faisaient une tronche pas possible. Il y avait un joueur qui était solaire. On l'a croisé, c'était Kylian Mbappé. Il était avec sa famille. Il était en train de discuter avec les Allemands. Il est sur une autre planète. Je pense qu'il a fait son match. Très déçu pour son équipe, mais il est là et il est présent.
Et il a fait son match.
Et il a fait son match. Lui, il pouvait se regarder à 18 balais. Et il est le meilleur buteur de l'histoire. Et il a déjà écrit un record lui aussi. Hein. Il est le meilleur buteur de l'histoire.
Bon, à cet âge-là, on a un souci aussi un peu.
Mais tant mieux.
Après, les responsabilités vont arriver. Ouais. Parce que là, on va l'attendre saison après saison. D'ailleurs, à chaque fois qu'il est, entre guillemets, pas décisif au cours d'un match, on le lui fait savoir le soir même.
Alors peut-être futur ballon d'or. En tout cas, si c'était Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo, qui suscite vraiment toujours ses concerts de louanges, l'admiration de ses fans, il a des millions de suiveurs sur Instagram notamment.
C'est le premier au monde sur les réseaux sociaux.
Pour ce qui est des footballeurs, parce que je crois qu'il est doublé par d'autres personnages.
Les LeBron James,
exactement, des gens du monde de la chanson. En tout cas, il a aussi la reconnaissance de ses pairs, et on va entendre évidemment l'un de ses prédécesseurs sur la liste des ballons d'or quand même, c'est Zinedine Zidane.
C'est pas moi qui veux le défendre en fait, c'est juste que c'est lui qui est incroyable. Et juste voilà, on disait beaucoup de choses sur lui dernièrement, et à l'arrivée, lui il le démontre à chaque fois sur le terrain. Et là il rentre encore une fois dans l'histoire de cette Coupe d'Europe. Et puis logiquement, parce qu'en fait c'est un joueur d'exception, et les joueurs d'exception, ils arrivent à faire des trucs que pas tout le monde arrive à faire.
Alors ça, c'est grâce à son but spectaculaire d'hier soir, mais pas seulement, puisque Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, on le voit, Habib, on a l'impression qu'il y a comme une reconnaissance entre grands joueurs, entre deux, depuis que Zidane est arrivé dans le vestiaire.
Mais je pense, imaginez-vous que Zidane n'a qu'un ballon d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une légende du football et il n'en a gagné qu'un, je dirais. Ouais. Il n'en a gagné qu'un, parce qu'il aurait peut-être mérité d'en gagner plus, mais...
Au moins deux.
Et lorsqu'on voit Cristiano Ronaldo et même Lionel Messi, aujourd'hui, ils ont amené ce trophée, ils ont amené cette performance dans une sphère que personne ne peut atteindre. Je pense que avant de revoir des joueurs avec 5 ballons d'or, on va sûrement attendre peut-être 2 belles décennies, voire 3. Donc, la reconnaissance, elle est logique de la part déjà du joueur que Zidane a été et de l'entraîneur qu'il est aujourd'hui, parce qu'il faut pas oublier que si Zidane est aussi performant en tant qu'entraîneur, c'est aussi grâce à des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Donc il a cette reconnaissance et puis c'est cette humilité de reconnaître qu'il a ce trophée-là, il a ce succès parce qu'il a des joueurs à sa disposition comme Cristiano Ronaldo. C'est la force de Guardiola à l'époque où il disait oui, c'est bien beau, je gagne tout, mais j'ai quand même Lionel Messi dans mon équipe. Donc il faut aussi relativiser, je crois qu'ils le font très très bien.
Et Zidane est assez intéressant à voir sur sa gestion d'un Cristiano Ronaldo. Quand tu regardes certains clubs ou des entraîneurs, et je pense à Unai Emery qui a du mal à dire que oui, Neymar est le meilleur joueur du monde, lui vient te dire quand Ronaldo a raté une passe, a fait un petit doute, c'est le meilleur du monde, c'est mon voilà, il le chérit.
Il sait comment l'encourager.
Il sait comment l'encourager et le faire repartir et
le faire relancer, voilà, surtout,
et le relancer, etc. Effectivement.
Je vais vous mettre d'accord.
Et sans doute remotiver.
Ça s'appelle l'esprit réel. C'est la maison réelle, c'est la maison blanche, c'est l'institution, c'est voilà, on se reconnaît entre pairs. On oublie toujours qu'on parle toujours de la grande école offensive du Barça, mais le Real, c'est une grande école de jeu aussi offensive. On prend les meilleurs, mais on sait ce qu'on en fait. C'est encore le triomphe de Florentino Pérez. Il a été critiqué. Je le critiquais au début, et après, j'ai compris un peu c'était quoi l'esprit Real. C'est pas simplement on met de l'argent, on achète les meilleurs, on les a, et on fait du palmarès. On met de l'argent, on est sélectif, on sait choisir les vrais champions, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Et à l'arrivée, on a ce duo pas possible entre Zidane, le maître, bon, c'est l'entraîneur, et la star
joueur,
qui est Cristiano, et ça nous donne deux Ligues des Champions d'affilée. On n'avait pas vu ça depuis le Milan AC. Mais le troisième homme, ça reste Florentino Pérez, c'est le garant des institutions, et il y a un vrai esprit.
Qui valorise aussi ces joueurs, parce que ces trophées sont individuels. Mais c'est
quand
vrai
on parle de Ballon d'Or, c'est du jardinier jusqu'au président. Tout le monde le défend, et le public, il est mis à contribution. Et je me rappelle, je crois que c'est en 2014 ou 2007, le dernier Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo. Voilà, à la 7e minute, 70e minute, le numéro 7 de Cristiano, on sort les numéros 7. Pourquoi ? Parce que le soir, il y a le vote du Ballon d'Or, donc Bernabéu est derrière. C'est l'institution.
Mais d'ailleurs, Cristiano Ronaldo s'était plaint une année justement du manque de soutien de Sergio Ramos, par exemple, qui avait dit Messi est un joueur extraordinaire. Et après ça, c'est là que tu te rends compte que l'institution intervient. C'est que je pense qu'il y a eu un vrai briefing autour de tous ces joueurs, de dire à un moment donné, on a un potentiel Ballon d'Or dans notre équipe, il faut le soutenir. Si vous avez des interviews, il faut aller dans le sens de Cristiano Ronaldo. Et depuis, t'as l'impression qu'il y a un soutien indéfectible. Alors, il n'a pas besoin de ça, puisqu'il est légitime de l'avoir au vu de ses performances.
Mais lui, c'est ça vrai le booste, parce qu'il se nourrit de ça
quand
aussi.
Quand tu parles d'institution, tu vois même ce qu'a fait Zidane avec Benzema. Benzema a été contesté, Benzema a été critiqué. On a essayé de lui mettre des Espagnols avec Morata dans les pattes. Les gens disaient, non, il faut mettre un Espagnol. Et il est resté, il a dit non, c'est Benzema. Et aujourd'hui, Benzema a fait aussi de ce Cristiano Ronaldo ce qu'il est aujourd'hui. Et Cristiano le dit, il l'a reconnu dans le reportage qu'on avait vu d'ailleurs du documentaire sur Karim Benzema. Donc je pense que dans la gestion de Benzema, de Florentino Pérez qui a eu confiance en Benzema avec tous les problèmes qu'il a eu, de Zidane dans sa gestion avec Ronaldo, de lui faire accepter qu'il peut plus jouer tous les matchs. Il y a des fois il reste à la maison, il l'emmène même pas. Parce qu'il lui a dit tu deviendras et tu resteras le meilleur joueur du monde en étant comme ça aujourd'hui à l'âge que tu as.
Alors messieurs, une question, cette alternance qui n'en est pas toujours une, parce que si c'est Cristiano cette année, il l'a déjà eu l'an dernier, donc on reste dans ce mano à mano, en tout cas entre ces deux grands joueurs, est-ce que ça lasse un peu, parce que le résultat paraît presque évident, est-ce que ça le déprécie, Bruno ?
Non, parce que ce ballon fait rêver. Moi, je suis pas sûr. Après, je me retourne vers l'ancien sportif. C'est un titre individuel. Et quand on est dans un sport collectif, j'ai pas l'impression que ça soit quand même ce qu'on recherche. On recherche une victoire collective. Mais quand on voit ce ballon, rien que le voir, en fait, je l'ai vu en photo, là, sur les réseaux sociaux.
Comme la Ligue des Champions, voilà. Je l'ai vu en vrai, j'ai compris.
Ah, là, c'est ça.
Bah, le trophée, hein, en argent.
C'est ça. Et là, tu vois le ballon. Et en fait, moi, je déteste ce genre de trophée individuel. Mais quand tu vois le ballon, tu dis, ah, quand même.
Ouais, quand même. C'est l'aboutissement malgré tout d'une. Il faut pas oublier que c'est un sport, c'est vrai collectif, mais il y a une logique individuelle aussi. C'est chez le joueur là, parce que s'ils sont aussi bons, c'est qu'ils ont cet égoïsme qui est incarné, qui est ancré en eux. Et ça, c'est, je pense, que la force de tous les grands joueurs, même si après c'est eux qui bonifient le collectif. Mais moi, je m'en lasse pas. Pourquoi ? Parce que je me dis, et je vous le redis à chaque fois dans cette émission, le jour où ces deux-là vont s'arrêter, ils vont nous manquer énormément. Comme a manqué Pelé, comme a manqué Cruyff, comme a manqué Maradona, comme le jour où Platini s'est arrêté. je vais pas faire de comparaison avec Johnny, par exemple.
Mais même quand Zidane s'est arrêté,
là,
vous
parce
vous
que là,
souvenez,
c'est un essai, mais lorsque les gens s'arrêtent, il se passe quelque chose dans le monde du football où vous êtes assis, vous vous dites, waouh, on va plus pouvoir profiter de ces mecs-là.
Et c'est d'ailleurs, et là, on a une chance extraordinaire. Je le dis depuis 10 ans, on a une chance extraordinaire.
C'est vrai.
C'est d'ailleurs la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire après? Je me suis déjà posé la question, parce que c'est marrant, je vois pas Cristiano Ronaldo entraîneur, ni Messi.
Tu sais quoi? Ils vont faire des conférences à deux, ils vont faire le tour des télés du monde. Moi, c'est comme ça que je
te laisse un héritage indélébile, comme tous ces joueurs qui sont passés.
Et je suis sûr qu'ils rigoleront de leur rivalité.
De rivalité. Temps passé.
Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je serais très intéressé de voir parler, de dialoguer.
On continue à en parler dans la deuxième partie de Radio Foot.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI avec Habib Bey, avec Bruno Salomon et Chérif Guémour, notre confrère de SoFoot, et Bruno Salomon de France Bleu Paris. Hein, je me suis pas trompée. Auditeurs qui aiment
parfait.
Le PSG, qui aiment écouter les matchs à la radio, il y en a beaucoup, et bien c'est vous qu'ils peuvent écouter. Alors on va évoquer maintenant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions en mode élimination, puisque le prochain tour de la compétition européenne sera maintenant fait de matchs avec élimination à la clé. Ce seront alors les huitièmes de finale. Depuis hier soir, en effet, nous connaissons tous les qualifiés de cette nouvelle phase. Les derniers matchs ont délivré donc les quatre qualifiés et l'ordre surtout complétant la liste finale. Et on a donc le FC Porto, FC Séville, Liverpool et Shakhtar Donetsk qui ont donc précisé leur participation à ces huitièmes de finale. En tout cas, c'était une soirée incroyablement prolifique. Alors, vous à Porto, vous en avez vu des buts hier soir, Habib?
J'en ai vu d'ailleurs dans deux d'un Africain, Aboubakar.
Voilà, vous étiez au commentaire avec Stéphane Guy sur Canal+. Et eh bien, parmi ces buts, il y a ceux de Vincent Aboubakar, mais au total, c'était 9 marqués par des buteurs africains. Et on va entendre cela. Early on with Milner crossing on the run. And Mane, it is one of those moments. It's a fantastic fourth goal for Liverpool. And a chance for Sturridge. But in the end, he's given the goal to Mane. Milner's in there, and so Sturridge, and here's Salah's chance. Surely he's going to, he does. Well, it's been a long wait for Mo Salah. Gol del Borussia Dortmund. Schmelz anticipó y voló, sí, la capa para volar de gol Aubameyang. Ferreiro al medio para Aubameyang, la lucha con Salah para Aubameyang. Qué ido en carros Aubameyang. Qué bien. Et pas de hors-jeu pour Aboubakar. Il arrivait derrière. Et lui qui avait fait tant de mal au Monégasque lors de la rencontre au Stade Louis II avec un doublé, marque dès l'entame de la partie. Aboubakar dans la surface. L'international camerounais pour le doublé. Il se régale face au Monégasque. Ça, c'est une vraie réussite. Alors un melting pot de commentaires hein, en langue locale, on va dire, c'est-à-dire suivant les équipes, et c'est ce qui nous amuse toujours dans Radio Foot. Mais le nom, notamment des buteurs qu'on a entendus, il y avait le Sénégalais donc Sadio Mané qui marque un incroyable but.
Qu'est-ce qu'il est beau ce but.
Ouais. Wow. Après on a un doublé de l'Égyptien Mohamed Salah, on a le doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Donc le doublé de Vincent Aboubakar, le Camerounais, champion d'Afrique. Et puis il y a eu aussi des buts de l'Algérien Yacine Brahimi dans cette équipe de Porto et le Guinéen Naby Keïta. Alors messieurs, lequel vous a plu le plus, Chérif?
Aubameyang, la tête plongeante tout de suite, parce que c'est un centre d'une violence, il va la tête plongeante, les deux buts. Et alors j'ouvre une petite parenthèse, si Pierre-Emerick avait marqué avait vraiment transformé toutes les occasions qu'il a eues, que ce soit en Ligue des Champions, mais surtout en Ligue des Champions, peut-être que le Dortmund aurait été qualifié. Et c'est dommage. Mais pour moi, Aubameyang, quoi. Allez, le doublé d'Aubameyang. Hein.
Moi, j'ai réagi, c'est celui de Mané. Hein.
Ouais, ça de Mané.
Même vous qui étiez devant les buts d'Aubameyang, de Brahimi, Habib.
Sadio Mané, il est exceptionnel, le but. Parce que le centre, c'est vrai qu'il est parfait, mais je trouve que l'équilibre, ce ciseau...
La précision.
Cette précision est incroyable.
La violence à laquelle ça part aussi.
Exactement. Et puis, il est sénégalais, donc. Et puis, il est aussi avec on va dire Mohamed Salah pour le Ballon d'Or africain, donc il faut lui donner un petit peu de force.
Je sais pas comment il a parvenu à la cadrer déjà. Je sais pas comment il fait.
On parle du Ballon d'Or africain. Alors c'est vrai qu'il y aura cette cérémonie où on attend. Ça sera à Accra pour récompenser le meilleur buteur donc d'Afrique. Il y aura durant le week-end une grande fête du côté de Nouakchott. Là, ça sera pour récompenser les meilleurs du football mauritanien, ceux qui se seront illustrés durant la saison. On parlait de ses buts et de ses bons résultats. Vincent Aboubakar, donc, est-il le parfait numéro 9? En tout cas, vous allez l'écouter. C'était au micro de Marco Martins, qui est un des correspondants de RFI au Portugal. Il était à Porto hier soir. Il lui a posé la question. Vous allez l'entendre. Il fait le modeste, Vincent Aboubakar.
Le premier but, j'ai juste anticipé. Je savais que Brahim, il allait remiser en une touche. J'ai juste anticipé le deuxième but. Bon, j'ai eu du sang-froid parce que c'était dans la surface. Je me suis calmé et j'ai fait le bon geste. Donc. Ce sont des buts qu'on travaille à l'entraînement. Après, le jour du match, ça vient d'une manière intentive. Donc, il n'y a pas quelque chose de grandiose là-bas.
Nos confrères lui mettent 8 d'ailleurs dans l'équipe aujourd'hui.
Il a été incroyable.
Il est trop modeste.
Il est trop modeste parce que je trouve qu'il y a une immense progression de la part d'Aboubakar dans sa faculté à décrocher, à garder les ballons, à trouver cette affinité technique aussi avec Brahimi. Brahimi qui a été exceptionnel hier dans sa qualité technique. Il revient vraiment à son meilleur niveau.
Alors la défense monégasque les a aidés un peu.
Oui, mais malgré tout, il est quand même assez incroyable.
Alors, il y a vraiment du
talent chez Brahimi. Après, Aboubakar, c'est une surprise de le voir à ce niveau-là, surtout en Ligue des Champions, parce qu'on l'avait vu marquer des buts à Lorient, il était parti au Beşiktaş, Porto l'a ramené à Porto, ils étaient presque à le transférer à Marseille, parce que Marseille s'était positionné, puis ensuite il y a eu cette interdiction de recrutement, qui a fait qu'on l'a gardé du côté de Porto, et Conte Sessao lui a donné énormément de confiance, et aujourd'hui c'est l'attaquant numéro 1 de Porto, il est décisif en Ligue des Champions, je crois qu'il a mis 5 buts sur la Ligue des Champions, donc aujourd'hui il faut lui rendre aussi hommage, parce que lorsque vous marquez autant de buts en Ligue des Champions, c'est que vous avez un niveau assez incroyable.
Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2017, il y a encore de la place pour les numéros 9.
Exactement.
Les numéros 9, voilà, parce qu'on se sent devant les buts, t'as un gars, il te la met au fond, ou alors il fait les bons appels. On a toujours besoin des numéros 9. Et Aboubakar, c'est un bon exemple.
Et ce qui est intéressant en plus, c'est dans l'interview qu'il donne, il dit je sais que Brahimi va me la mettre là. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail derrière tout ça, c'est pas le numéro 9. Et ça me fait rire, parce que quand j'entends Marseille, effectivement, je me souviens encore des supporters de Marseille. Voilà, là, qu'est-ce qu'on va aller prendre Aboubakar, la cata, machin, etc.
Bah, du coup, ils ont pris Mitroglou.
C'est un vrai numéro. Non, mais oui, ils ont pris Mitroglou, ils ont pris Captain Haddock. Là, on sait toujours pas si c'est
joué. Aboubakar, c'est déjà 9 buts en championnat portugais. Le Porto est premier. Il marche en Ligue des Champions. Et puis, il l'a dit hier au micro de Canal Plus, c'est qu'il a énormément de confiance de la part de Conte Sessao. Il lui doit beaucoup, apparemment. C'est ce qu'il a dit. Et Porto a une équipe. Attention, moi, je vois beaucoup de gens dire il faut prendre Porto parce que c'est une petite équipe. Porto, faut les jouer là-bas à domicile. Même si c'est vrai que Monaco a réussi à marquer 2 buts, je pense que défensivement ils ont quelques faiblesses, mais offensivement Brahimi, Marega, ils ont Aboubakar, on l'a dit. Il y a des joueurs quand même qui sont pas mal dans cette équipe. Hein.
Ils se trouvent très très vite.
Liverpool, donc ce carton hier soir de 7-0, sans pitié hein, pour les Reds de Jurgen Klopp. Sadio Mané, c'est donc un doublé de Sadio Mané, c'est pas un doublé de Salah. En tout cas, Sadio Mané peut-être futur Ballon d'Or. Hein. Il doit
on
y être sur cette liste des 30.
Parce qu'il pourrait succéder à Aliat Djidouf, qui a été double Ballon d'Or sénégalais aussi, par le passé. Mais je crois que Sadio a réalisé une saison assez incroyable avec Liverpool. Même les anciens de Liverpool, que ce soit Gerrard ou Carragher, disent de lui qu'il est le talisman, qu'il est le joueur clé de Liverpool. Alors c'est vrai qu'il y a Mohamed Salah qui lui aussi a fait de très bonnes choses avec l'Égypte, avec Liverpool. Je crois qu'il est meilleur buteur de Liverpool cette saison aussi. Mais Sadio, ce qu'il fait est digne d'un Ballon d'Or africain.
Ah ouais, il assure bien le lien entre le milieu et l'attaque, surtout plus que Salah, à mon avis. Salah est beaucoup plus attaquant, Mané est plus intéressant tactiquement, je dirais.
En tout cas, il est légitime sur la liste du Ballon d'Or général, là, quelque part derrière Cristiano Ronaldo, peut-être aussi futur star de la Coupe du Monde. Habib, On vous a pas entendu depuis qu'il y a eu ce tirage au sort. Une petite aparté sur les Lions de l'Atlas.
Bah, c'est un tirage au sort.
Pardon,
c'est...
sur les Lions de la Teranga.
Oui, c'est un tirage au sort difficile. Hein, lorsqu'on voit la Pologne, la Colombie, on se dit que c'est deux équipes qui sont quand même avec Rames Rodriguez, avec Lewandowski. Donc, mais je crois que c'est un peu la même configuration que ce qu'on avait connu en 2002.
Vous disiez ça en 2002 aussi.
Exactement. Lorsqu'on est arrivé, on avait la France, l'Uruguay et le Danemark. Tout le monde nous voyait marquer zéro point. Ce qui est bien pour les Sénégalais, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir une motivation qui doit être exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ils seront vus comme le petit poussé de, alors, petit poussé de ce groupe. Je m'entends, mais lorsque vous avez la Colombie et la Pologne, tout le monde pense que ce sont les deux à devoir sortir en huitième de finale. Donc la surprise, elle doit être totale. Je vois pas aujourd'hui le Sénégal inférieur ou globalement très inférieur à ces équipes-là. Je crois qu'on a de très très bons joueurs. On a montré qu'on avait un collectif fort et il faut l'affirmer en Coupe du Monde. Donc moi j'ai toute confiance en Aliou Cissé et ses hommes et je crois qu'on sera capable de faire de grandes choses.
Et bien parmi ces hommes, Sadio Mané.
C'est l'objectif d'aller les huitièmes d'abord et après pouvoir penser à autre chose. On essaie de travailler davantage, on essaie d'aller jusqu'au bout et c'est ce qui fait qu'on est fort comme équipe, donc on va essayer de continuer et marquer pour pouvoir gagner les matchs, parce que pour gagner les matchs il faut marquer autant de prises de but que l'équipe adverse.
Liverpool en Ligue des Champions, on se souvient de leur campagne jusqu'en finale, pas la saison passée, mais l'année d'avant, quand ils avaient disputé cette finale contre Séville, je me trompe pas, et qu'ils la perdent sur la scène européenne. Là maintenant, ils sont premiers de leur groupe et comme les équipes anglaises pratiquement dans leur ensemble, et ils montrent leurs ambitions avec l'équipe de Klopp.
Ils montrent leurs ambitions, ils ont l'entraîneur pour, et qu'est-ce que c'est bon surtout de retrouver quand même cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions, c'est sa place.
Avec en plus Coutinho, Firmino. Voilà.
J'ai rien contre l'Europa League.
Ambition offensive. Oui. Ambition offensive. Et le vrai problème, de la Ligue des Champions, pour moi, c'est trop offensif. Oui. Il y a un vrai déséquilibre dans l'équipe de Klopp.
C'est peut-être
Klopp,
le problème de Naples, on va y venir.
Oui, mais Klopp nourrit ça. Klopp nourrit ça depuis des années. Il était comme ça à Dortmund. Lui, ce qui l'intéresse, c'est peut-être de gagner 5-4 que de gagner 1-0. Le vrai problème, c'est que
il est pris à ce piège-là.
Lorsqu'il gagne 3-0 contre Séville, par exemple, il change rien dans l'aspect de son équipe. Même quand il prend ce but 3-1, 3-2, il change rien du tout. Il reste dans cet aspect-là. Alors c'est un aspect qui est beau, magnifique à regarder. Mais lorsque vous arrivez dans ces matchs quart de finale, demi-finale, où vous devez parfois calculer, modifier l'approche aussi de votre équipe, il est pas doué pour ça. Et on le voit en première ligue, il est pas champion parce qu'il prend trop de buts. Alors que s'il se préserve un petit peu, je pense qu'il a l'armada offensive pour le devenir.
Ce qui est génial, c'est que du côté de Liverpool, pour le mercato d'hiver, le seul joueur dont on parle, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est-à-dire qu'on vient te dire quand il veut encore en remettre une couche, quitte à aller mettre maintenant des 6-4 ou des 7-4. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant.
Je vais aller dans le sens d'Habib. Justement, tu vois, le style Klopp, c'est comme c'est des joueurs très très généreux, comme tu disais, avec le gros pressing permanent et tout ça, avec une équipe très portée. Il peut le faire parce qu'il a beaucoup de joueurs jeunes. Tu peux toujours pratiquer sous l'eau avec des joueurs jeunes. Le problème, c'est qu'il manque de joueurs qui ont une plus grande maturité, surtout en Ligue des Champions. C'est pas étonnant qu'on a dans l'équipe du Real, on ait des Marcelo, des Ramos, ou même des Cristiano. C'est, à mon avis, c'est ce qui manque dans cette équipe de Liverpool, un ou deux tauliers, comme ils avaient Gerrard avant. C'est pas étonnant que la seule fois où ils sont revenus en Ligue des Champions, c'est de la période de Gerrard. À mon avis, c'est ça. Elle est très jeune. Elle est offensive, mais au bout d'un moment, comme tu dis, il faut savoir mettre le pied sur le ballon, il faut savoir gérer, et ça, il faut des joueurs d'expérience. Enfin, tu sais, les joueurs, tu sais, les 28, 29 ans, tu vois, les tauliers. Et à mon avis, c'est ce qui manque à cette équipe de Liverpool. C'est pour ça que moi, cette année, je les vois pas aller très loin.
Je te dis pas qu'ils vont faire des étincelles.
Ils peuvent, attention, parce qu'ils ont une telle force de frappe offensive, c'est que demain, ils peuvent te mettre 1, 2, 3-0. Le vrai souci qu'ils ont, c'est qu'ils ont du mal à préserver des scores, et on sait qu'en Ligue des Champions, c'est très important. Tu sais, sur un match aller, des fois, tu dis, tu peux pas le gagner, mais au moins, tu le perds pas, et tu sais qu'au match retour, t'as cette opportunité-là. Il y a beaucoup d'équipes qui ont construit comme ça. L'Atlético Madrid qui va en finale de Ligue des Champions.
C'est comme ça que Simeone a construit. Tu as vu les darons qu'ils avaient, et c'est pareil pour le Real, quand tu as un Kroos qui sait mettre le pied sur le ballon, ou alors un Modric. Ça change tout.
Mais là où je te rejoins, c'est qu'offensivement, c'est exceptionnel.
Ça fait plaisir à voir aussi.
C'est le football qu'on aime. Nous, on aime le football qui va de l'avant, on aime le football qui se déséquilibre. On parle d'équilibre aujourd'hui en football. On est tous là à dire, ça manque d'équilibre. Mais comme l'avait dit Stéphane Guy un jour au commentaire, il m'avait dit, mais Habib, abat l'équilibre, parce que le football, c'est aussi ça. Ça fait aussi partie de ces déséquilibres qui nous offrent des rencontres exceptionnelles où il y a des 3-3, des 4-4, parce que c'est ce qu'on
Festival
aime.
Festival de buts.
Juste pour terminer, là, c'est pour vous faire sourire, à noter qu'on a peut-être l'explication de pourquoi Moscou a été aussi mauvais aussi. Ce matin, les tabloïds anglais ont annoncé que le médecin du CSKA Moscou avait interdit de sexe pendant 3 jours tous les joueurs. Ils avaient interdiction en arrivant à Liverpool et à première vue, ça leur a pas réussi. Voilà. Est-ce qu'ils pensaient que ça allait un peu les motiver? Mais voilà. Mais c'est les tabloïds anglais qui ce matin m'ont sorti ça. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, OK, on a l'explication, je comprends mieux.
Autour des Coupes du Monde, ça revient très souvent dans les débats brésiliens. Il faut pas. Romario, Ronaldo, Ronaldinho, tout le monde avait son opinion. En tout cas, on parlait de Liverpool. Parlons de ces clubs anglais. Il y en a 5 en compétition. Ils sont tous au deuxième tour. Mais surtout, il y en a 4 qui sont premiers de groupe, Shérif.
J'avais annoncé la couleur au bout de deuxième match. Parce que bon, il y avait aussi, on avait l'indice du début de championnat d'Angleterre, retour des clubs anglais, ça c'est incontestable. J'avais annoncé que l'équipe qui m'avait le plus impressionné, c'est Tottenham, et quand on regarde le bilan chiffré, Tottenham c'est
ils sont surtout devant le Real Madrid.
Ils sont voilà, d'abord ils sont avec sortis d'un groupe très dur. Enfin, je suis désolé, mais le double champion d'Europe, quand tu passes devant, c'est que t'as fait quelque chose. Dortmund, qui était une très bonne équipe, bon, ils sont passés devant. Ils finissent avec 16 points, je crois que c'est le plus haut total de ce premier tour. Invaincu, c'est pas les seuls invaincus, exact. Mais bon quand même.
C'est le plus haut total.
Donc voilà. Alors malheureusement, j'ai pas d'explication sur ce qu'ils font en mal en championnat d'Angleterre, parce que là c'est de pire en pire. Mais sur ce premier tour, cette équipe de Tottenham, et globalement, les grosses machines, les machines de guerre anglaises sont sur le pied de guerre. Je dis pas que c'est pour cette année. Va falloir les jouer les clubs anglais, mais ils sont là, ils sont de retour. Alors peut-être pas cette année, peut-être pas de victoire, mais
est-ce qu'on n'est pas parti sur parce que tous les ans, tous les ans, on a nos clubs anglais qui sont en huitième. Et après la broyeuse du Boxing Day, tu te retrouves avec des clubs qui et tout le mois de janvier avec un championnat un peu resserré. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils fassent des étincelles derrière, tu vois. Enfin, je sais
ces
pas.
Ces dernières années,
Tottenham n'était pas passé l'année
voilà,
dernière.
Voilà, non, mais ces dernières années, j'ai toujours fustigé la façon dont on a surcoté le championnat anglais. Et j'ai pas été étonné pendant 5 années qu'on retrouve pas les clubs anglais dans les très très loin en Ligue des
Champions.
Dans
la compétition. Sauf Manchester City, donc l'année dernière.
Voilà. Mais maintenant, ça commence à se mettre en place. Je pense pas qu'il y ait.
Puis on a des entraîneurs, surtout comme Mourinho, comme Pep Guardiola, qui pensent
à Manchester United en train de. Ça ressemble à quelque chose, je suis désolé. Je suis pas fan, mais ça ressemble à quelque chose.
Deuxième année de Guardiola. Voilà. Deuxième année d'Antonio Conte.
Voilà.
Deuxième année de Mourinho.
Voilà.
Et il faut pas oublier que Pochettino est maintenant depuis 3 ans à Tottenham et il fait du très très bon travail. Klopp est là depuis 2 ans et demi, je crois. Donc forcément, lorsque vous avez de tels entraîneurs qui arrivent dans des clubs comme ces clubs-là avec des moyens financiers importants. Lorsqu'on regarde City, par exemple, cette saison, en Europe, je dis en Europe, quand vous prenez la globalité de la Première Ligue et de la Ligue des Champions, c'est sûrement le plus beau football aujourd'hui actuellement, même s'ils perdent contre Shakhtar. Mais de ce qu'on a vu en Première Ligue et de ce qu'on voit en Ligue des Champions, c'est quand même admirable. Donc on se dit, lorsqu'on voit City, le niveau de jeu, la qualité de jeu qu'il y a aujourd'hui au sein de City, on dit c'est un potentiel, comme on pourrait dire du PSG,
vainqueur
de la Ligue des Champions. Encore une fois, là où je rejoins Bruno, c'est que le Boxing Day, c'est une période qui est très compliquée pour les clubs anglais, parce que c'est le moment, pas forcément où vous gagnez la Première Ligue, mais vous pouvez la perdre. Et c'est là où il y a beaucoup de casse sur le plan physique. Et lorsqu'on voit le niveau des clubs anglais sur le plan physique, on se dit, ils sont peut-être un petit peu en avance par rapport à ce qu'on demande au mois de mars, avril, où il faut faire la différence.
Au mauvais moment.
C'est le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, on parle du Bayern par exemple. Le Bayern que j'ai vu, moi, face au Paris Saint-Germain, et le Bayern que j'ai vu au match aller d'Ancelotti, sur le plan physique, c'est pas du tout le même Bayern.
Déjà.
Lorsque vous voyez
Kingsley Coman,
lorsque vous voyez Tolisso, lorsque vous voyez même Ribéry qui revient de blessure, qui est à ce niveau-là physique, vous vous dites, peut-être qu'au mois d'avril, on aura un Bayern qui sera en pleine bourre.
J'en doute pas, moi.
Et que peut-être que d'autres équipes qu'on a vu très très fort physiquement seront un petit peu moins bien.
Habib, je vais apporter une nuance. D'accord. Moi, je veux bien le championnat anglais, c'est un championnat très exigeant. Il y a le Boxing Day qui rince les équipes et tout ça et tout. Faut pas oublier que dans la deuxième partie des années 2000, on avait cinq clubs anglais qui se tiraient la bourre, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. On retrouvait régulièrement 3 clubs anglais en demi-finale de Ligue des Champions. Et le championnat était mortel. Rappelle-toi, c'est la période Chelsea, Liverpool, Manchester United. C'est-à-dire Scholes, Gerrard, Lampard. C'est vraiment des monstres qu'on avait, tu vois ce que je veux dire. Et au niveau de l'intensité, ils savaient la garder plusieurs saisons. Moi, je pense qu'on va revenir progressivement à vraiment cette force de frappe britannique. Peut-être pas cette saison, je suis d'accord avec vous, mais ça va revenir. Parce que c'est des hyper compétiteurs.
Mais parce que t'as des coachs qui sont habitués à ça.
Et en plus, tu
un
as
mec
ça.
Comme Guardiola,
et en plus, tu as ça.
Tu signes.
Voilà.
Concrètement, dans son contrat, tu signes minimum quart de finale, demi-finaliste de Ligue des Champions.
Alors ça va peut-être s'écrouler, je suis d'accord avec vous après le Boxing Day.
Je veux pas dire que c'est automatique.
Ça va revenir.
C'est pas automatique. Mais quand tu prends Guardiola, tu sais qu'il va t'emmener là-haut. Quand tu prends Mourinho, tu sais qu'il va te gagner des titres. Tu sais pas lequel, mais tu sais qu'il va t'en gagner.
Mine de rien,
il arrive, il en a gagné 3.
Championship,
Europa League et la Coupe. Donc tu te dis, ces mecs-là, ils vont t'emmener là-haut. Et c'est vrai que pour l'instant, de ce que tu vois des clubs anglais en Ligue des Champions, même United, tu peux compter sur le fait que United soit aujourd'hui dans le dernier carré.
Juste un dernier petit mot, quand je vois les clubs anglais, ça ressemble à quelque chose. C'était pas le cas avant. Moi, j'avais du mal à lire, par exemple, le système de jeu de Manchester United. Maintenant, ça m'a l'air assez rationnel. Et quand tu parles de Manchester City, je suis d'accord avec toi. Tottenham, c'est pareil. C'est vraiment, c'est des équipes avec leur équipe type, une façon de jouer bien déterminée et avec un coach qui sait où il va. Ça, on le voit tout de suite.
Bruno, un petit mot sur les éliminés de la soirée. Leipzig, Dortmund, les deux clubs allemands, et puis aussi Naples. Naples qu'on avait pris tellement plaisir à voir jouer. Alors, ils vont tous en Ligue Europa, d'ailleurs. Ça va pas être simple pour ceux qui ont quelques prétentions en Ligue Europa. Mais il y a des équipes, voilà, peut-être que Naples était victime.
On parlait des équipes qui se préparent. Qui se prépare pour la Ligue des Champions et voilà. Naples a dû se préparer très tôt. Et on a et senti oui. dans cette Ligue des Champions.
Ils font le tour préliminaire contre Monaco.
Et, voilà. Et ils font barrage. Donc ils ont dû être prêts pour sortir les Niçois. Donc effectivement, c'est quel dommage. Et je vais être coquin, mais hier en regardant le résultat, je me suis dit non, Manchester City aurait pas tiré la chasse quand même comme ça. Tranquille, en laissant passer le Shakhtar.
Ah, ils ont joué la chasse, puisqu'il a mis des jeunes de 18 ans, de 17 ans, des jeunes.
T'as tous
joueurs.
Les droits, le dernier match,
il a remanié son équipe, mais là où je te rejoins, c'est que quand on voit Naples jouer, le vrai problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'ils ont rencontré deux fois une équipe de City qui a été injouable. C'est-à-dire qu'ils les ont battus 2-1 en Angleterre, et ils leur ont mis 4 ou 3 ou 4
au San Paolo.
Et à ce moment-là, City a un niveau de jeu exceptionnel. C'est peut-être ce qui a manqué à Naples, de rencontrer justement, de prendre un point ou de prendre un résultat contre City.
Il y a que deux fois Naples quand même. Il y a des insuffisances.
Là, je suis d'accord avec toi. Mais en plus, ils ont perdu Goulam. Et depuis qu'ils ont perdu Goulam, ça devient plus compliqué pour eux parce que c'est moins bon défensivement sans Goulam. Mais c'est vrai que cette équipe nous a régalé en termes de jeu. Sarri fait du superbe travail du côté de Naples. Maintenant, pour les autres, moi, Leipzig, je suis pas surpris. Ils m'ont pas impressionné. Et pour moi, ça a pas le niveau Ligue des Champions. Et Dortmund, il faut dire que depuis maintenant un an et demi, deux ans, c'est plus du tout la même équipe de Dortmund. Défensivement, c'est friable. Alors, ils ont toujours Aubameyang qui marque des buts, et heureusement qu'il est là.
Mais derrière, il y a eu des changements aussi au sein du club qui font que
plus globalement, on peut faire un mini bilan pour les clubs allemands. Alors, autant on en a fait un sur les clubs anglais, sur les clubs allemands, on ne voit toujours pas arriver cette vague du football allemand. Le Bayern est toujours là. On a pensé qu'avec le Bayern, ils entraîneraient dans leur sillage, parce que on nous a parlé de la montée en puissance de la Bundesliga. Je veux bien, mais avec le Bayern, il y a Dortmund qui a un peu suivi, mais où sont Leipzig, où sont les Leverkusen, où sont Schalke 04?
Offenheim sorti pendant le tour préliminaire.
Ça décolle pas. La Bundesliga ne décolle pas.
Un dernier petit sujet, messieurs, on va s'amuser là. Tirage au sort lundi pour ces huitièmes de finale, lundi à la mi-journée. Le PSG, Bruno Salomon, peut donc se retrouver. Alors, effectivement, ce qui a changé hier soir, c'est que cette inversion dans certains groupes qui ont fait que les premiers, par exemple, les clubs anglais se retrouvent premiers, sauf Chelsea. Donc, comme on ne peut pas tirer ou un club qui était dans sa poule ou un club qui est de la même confédération, en l'occurrence les Anglais, du coup, ça a un peu élargi le nombre d'adversaires potentiels. Ils se retrouvent avec potentiellement le FC Séville, donc, au lieu de Liverpool, le Shakhtar Donetsk, donc et plus Naples, Bâle, le Real, Chelsea ou la Juve. Alors, qui préférait ?
Préférer, je préférerais peut-être un coup de Séville, histoire de jouer au ballon et histoire d'écrire une petite histoire avec Unai Emery autour de tout ça. Je sais pas, le retour
à... Tu es coquin.
Voilà. Après, on va juste rappeler les statistiques pour les gens. Le Paris Saint-Germain, parce que finalement, on parle de tirage au sort, mais c'est limite, tu joues à Motus et tu tombes sur la boule noire, mais c'est 28% de chance de tomber contre Chelsea. C'est 12% de chance le Real, et après, tu fais la suite avec la Juventus, etc. Donc, si tout se passe bien pour Paris Saint-Germain, comme tous les ans ou tous les deux ans, tu prends ton petit Chelsea et on verra ce que ça donne.
Ras-le-bol.
Ouais, moi, c'est pareil. Finalement, c'est sympa, mais
Cristiano Ronaldo,
de Madness, moi, j'en peux plus.
On en vient au début du débat qui était Cristiano Ronaldo Messi, Messi Cristiano Ronaldo, ce mano à mano, et là, on va se retrouver avec
PSG-Chelsea. Pour moi, il faut surtout pas Chelsea pour le Paris Saint-Germain. Je sais pas pourquoi, je les ai vus jouer très souvent cette saison. Antonio Conte est le champion du monde pour faire déjouer les équipes. Et il a un système qui fait que vous avez l'impression de dominer. Il vous attire, vous allez dans cet entonnoir et il vous contre. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a été plus ou moins champion d'Angleterre. C'est comme ça qu'il continue à être à la lutte pour le titre en Première Ligue. C'est comme ça qu'il a amené Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions avec des joueurs de grande, grande qualité. Je pense à Eden Hazard, à Morata. Et je me dis que pour le Paris Saint-Germain, ça serait mieux de tirer Bâle. le Shakhtar, bon, il fait froid, mais
Le Shakhtar, juste un truc, on en a parlé tout à l'heure, on peut expliquer aux gens, hors antenne, effectivement il fait très froid, mais on rappellera juste que le championnat ukrainien reprend au mois de mars. Donc c'est-à-dire que tu reprends une équipe qui sera allée se préparer à Chypre comme ils font d'habitude, etc. Ça peut jouer, ça peut être intéressant. Je dis bien intéressant. Mais par contre, le moins 10, moins 17... à cette époque
match
de l'année,
au match,
moi je l'ai déjà vécu.
Moi je l'ai vécu aussi. J'ai été joué à Moscou sur moins 10
Shakhtar.
Sur un terrain, c'était du béton. Et on sait que le Paris Saint-Germain jouer à Montpellier sur un terrain
les
très
Brésiliens
compliqué.
Ils aiment pas trop ça.
À jouer à Strasbourg sur un terrain un petit peu gras.
Il y a beaucoup de Brésiliens au Shakhtar Donetsk. Non, ils se sont adaptés.
Non, mais c'est Paris.
Oui, c'est Paris, c'est Paris. Non, mais le Shakhtar faut les jouer. C'est des Warriors. Oui. Et sur le tirage, donc tu vas parler d'FC Séville. FC Séville, pareil.
Il n'y a plus Unai Emery, il a changé de côté.
Ouais, mais ils ont. C'est ça, c'est Berizzo. Moi, je me rappelle contre Liverpool, ils sont menés 3-0 et c'est méthodique. Pareil, il y a une identité de jeu, il s'y plie. Il y a le public qui siffle parce que ça va pas assez vite, on balance pas assez devant. Ils balancent pas devant, ils accélèrent pas le jeu. Ils développent sur les côtés, ils passent par le milieu, ils combinent et résultat, ils font 3-3. Attention à Paris, cette équipe de Séville ne lâche rien. Ils savent jouer au ballon. Et s'ils peuvent faire évidemment la misère,
après il faut relativiser une équipe qui joue au ballon. Après il faut relativiser lorsqu'on voit l'effectif de Paris et la qualité qu'ils ont.
D'accord.
Sincèrement aujourd'hui, ils doivent sortir de 8e de finale parce qu'on sait que les ambitions et les investissements ont été faits pour ça. Après, il y a aucun 8e de finale qui sera simple pour aucune équipe. De toute façon, lorsque vous êtes dans les 8e de finale, vous êtes dans ce dernier, on va dire carré très élargi parce qu'il y aura beaucoup d'équipes.
Je suis d'accord avec toi.
C'est compliqué à chaque fois.
D'autant plus qu'on s'est rendu compte que jouer à domicile ou à l'extérieur, ça compte de moins en moins. C'est-à-dire maintenant les équipes faire un résultat, y compris à l'extérieur.
Vous avez tous dû voir la une de l'équipe aujourd'hui, et notamment vous, Bruno, pour le PSG, oui. Rallumer le feu.
Tout à fait.
Allusion à...
À Johnny.
À Johnny.
À Johnny.
Eh bien voilà une nouvelle qui vient de tomber et que nous a transmise Pierre Guérin. Une chanson de Johnny Hallyday sera diffusée avant chaque match de football de Ligue 1 et de Ligue 2 durant le week-end.
Il y en avait une hier à Porto.
Et je propose
à la fin du match, ils ont diffusé Johnny Hallyday dans le.
Quelle chanson c'était?
Je ne me rappelle plus la chanson exactement, mais je l'ai fait remarquer d'ailleurs à Stéphane Guiz que j'avais pas mes écouteurs pour parler pour Infosport et j'entendais Johnny Hallyday en fond sonore derrière.
Alors si le club choisit, ils vont choisir allumer le feu, c'est ça?
Ah non, moi pour le Paris Saint-Germain, je lancerai l'envie d'avoir envie, voilà, pour Neymar. Ça
ou alors
fait
par
du bien.
Rapport au match du Bayern Tennessee.
Bon, je vois que ça vous inspire Johnny Hallyday, ça vous a attristé peut-être aussi.
Oui,
bon,
on a tous grandi avec
Johnny Hallyday. On a tous un souvenir
exactement.
Avec Johnny Hallyday, certainement, avec notre famille ou avec des amis, voire des fêtes.
Johnny, c'est la France.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé si bien ce Radio Foot. On donne rendez-vous à nos auditeurs africains à 21h10 en temps universel avec le gagnant du Ballon d'Or. On vous donnera son nom, bien sûr.